Hello hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Depuis que je suis tout petit, je fais beaucoup d'eczéma, ce qui nécessite certains traitements à base de cortisone et de me tartiner de plein de crèmes bien grasses. Il y a une crème corps très connue qui contient trois ingrédients principaux, à savoir la glycérine, la vaseline et la paraffine liquide. Et c'est qu'une fois adulte que j'ai compris que la vaseline et la paraffine liquide renvoient en fait à des dérivés pétrochimiques. Alors j'étais un peu étonné, je me suis dit, ma dermato me conseille depuis que je suis tout petit de me tartiner le corps de pétrole. Même chose pour les fameux labellos, ou tubes de vaseline qu'on peut s'appliquer au bord des lèvres. Ils sont souvent remplis d'huile minérale ou de gelée de pétrole. Est-ce que ça signifie pour autant qu'on avale du pétrole à chaque fois qu'on met du baume à lèvres? C'est évidemment plus compliqué que ça. D'autant que les dérivés de pétrochimie n'ont pas toujours des noms d'ingrédients aussi faciles à comprendre. Si je vous dis PEG par exemple, vous ne pensez peut-être pas tout de suite à de la pétrochimie. Et pourtant... Alors, pour décrypter tout ça, j'ai donc refait appel à Laurent, alias Secret de Peau.
Alors, bonjour à tout le monde, moi c'est Laurent, je suis le fondateur de Secret de Peau, qui est un compte spécialisé dans le skincare sur Instagram et TikTok. Donc, l'objectif de ce compte-là, c'est de vous aider à mieux prendre soin de votre peau.
Mais dis-moi Laurent, trouve-t-on beaucoup de pétrole et ses dérivés dans les cosmétiques ?
Alors oui, on en trouve énormément et on en trouve notamment dans les produits les plus connus qu'on peut retrouver à Monoprix, etc. Bah, par exemple, Nivea, toutes les huiles minérales qu'il y a tout en haut de la formule, eh bien, ce produit, c'est un des produits les plus connus du marché.
La crème dans le packaging bleu, c'est ça ?
Exactement, dans le petit pot bleu là, enfin le gros pot bleu même.
La fameuse. Mais c'est aussi ce qu'on trouve dans la vaseline par exemple.
Exactement, ils appellent ça la gelée de pétrole, c'est magnifique.
D'ailleurs, la gelée de pétrole, tout est dans le nom. Pourquoi est-ce qu'on parle de gelée quand on parle d'huile minérale ?
En fait, gelée, c'est vraiment un terme marketing qui est utilisé par la vaseline pour dire que le truc est un petit peu gélifié, c'est un peu sympa, etc. Après, si tu prends l'huile minérale dans les autres formules, en fonction du type d'huile minérale, t'en auras certaines qui seront liquides, t'en auras d'autres, c'est des cires, etc. Donc, ça diffère énormément. Donc, tout n'est pas gelé.
D'accord. Pourquoi est-ce qu'on trouve de l'huile minérale dans certaines formules de produits cosmétiques ? À quoi est-ce que ça sert ?
Eh bien, l'huile minérale, c'est un dérivé de la pétrochimie, donc c'est un ingrédient qui ne coûte pas très cher à produire. Il est présent en grande quantité, vu qu'on utilise déjà le pétrole, ben on peut en faire en utiliser un petit peu pour la cosmétique. Et il est très stable, il est inerte. Donc ça veut dire que dans une formule, ça permet à la formule de rester hyper stable au fil du temps. C'est-à-dire qu'on a beau dire les cosmétiques au bout de 2 ans, ça périme. Je suis prêt à parier que certains produits avec beaucoup d'huile minérale, au bout de 10 ans, ça tient encore.
D'accord, donc c'est un agent qui peut être stabilisant pour une formule. Tu parlais de gelée pour certains produits aussi. Est-ce que ça sert aussi d'épaississant peut-être ?
Alors, ça peut servir en tant qu'épaississant. Après, je ne suis pas sûr que les gens mettent de l'huile minérale pour épaissir la formule parce qu'il y a plein d'autres choses, des cires, de l'acide hyaluronique, etc. qu'on peut mettre pour épaissir une formule. L'huile minérale, elle va être beaucoup plus utilisée pour créer un film assez... comment dire, pas opaque, mais assez occlusif sur la peau, pour faire en sorte de retenir l'hydratation dans la peau.
Ok, donc si je comprends bien, ça prévient la déshydratation, mais si c'est occlusif, est-ce que ce serait pas comédogène ?
Alors, les études scientifiques sur la majeure partie des huiles minérales qui sont utilisées aujourd'hui en cosmétique montrent que ce n'est pas comédogène non plus. Les huiles minérales sont étudiées depuis quand même très 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 longtemps, donc je ne pense pas qu'il n'y ait que des études de marque qui font ça. Les dermatologues eux-mêmes disent que ce n'est pas comédogène. On retrouve des huiles minérales aussi dans certains produits recommandés par les dermatologues, etc. etc. pour des peaux acnéiques. Donc, ça montre bien que, quelque part, ce n'est pas un ingrédient qui est fondamentalement comédogène. Mais après, tu as raison de soulever ce point, c'est très discuté quand même. Aujourd'hui, si tu vas sur le site de Inky Beauty, par exemple, et que tu cherches huile de pétrole, ils vont te mettre potentiel de comédogénicité hyper élevé. Niveau 5, c'est le plus élevé. Alors que sur d'autres sites, notamment des sites américains, ils vont te mettre 0, le niveau le moins élevé. Donc, il y a quand même un débat dessus. Moi, personnellement, j'essaie d'éviter parce qu'en effet, je me dis que c'est quand même hyper épais, ça crée un film hyper occlusif, etc. Au-delà de retenir l'eau dans la peau, bah, finalement, qu'est-ce que ça fait ? Pas grand-chose d'autre. Ça reste à la surface de la peau.
Ok, pouce, je me dois de vous définir ce qu'on entend par occlusif. On parle d'occlusif pour désigner des ingrédients qui vont agir comme une véritable barrière physique sur la peau afin de retenir l'évaporation de l'eau. Dans la catégorie des occlusifs, on trouve donc des cires comme celle d'abeille, des beurres comme celui de karité, ou encore les fameuses huiles minérales comme la paraffine, le pétrolatum, le paraffinum liquidum, ou encore mineral oil. Appelez-le comme vous voulez. Maintenant que vous avez compris ce qu'on entend par occlusif, on reprend.
Ça part, on va dire, une action sur les cellules de la peau, à l'intérieur de la peau, etc. Ça va vraiment rester à la surface. C'est comme si on se disait, je mets un film plastique à la surface de la peau, hop, là, il n'y a plus de déshydratation.
Oui, ça conserve. Mais justement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de personnes parmi des skincare addicts qui s'en servent en dernière étape de leur skincare routine du soir pour dormir, enfin, et se faire un masque de vaseline. À quoi ça sert de faire ça?
Exactement, c'est ce qu'ils appellent le slugging, donc le masque de vaseline. Et bien justement, ça va permettre à la peau de ne pas du tout se déshydrater pendant la nuit. Donc c'est pour ça qu'ils le font. Et en général, en plus de cet effet réhydratant, bah, avoir un petit peu d'huile de pétrole sur la peau, ça peut donner un effet un petit peu, comment dire, émollient. Tu vois, genre ta peau est un peu plus peau de bébé, elle est un peu moins sèche, etc. Donc c'est vrai que quand tu te réveilles, bah, c'est plutôt pas mal. Après, honnêtement, moi, c'est une pratique que je ne ferai jamais, personnellement. J'ai vraiment peur que ça me bouche quand même un petit peu les pores, parce que vu la quantité d'huile de pétrole qu'il y a dessus, là, c'est pire qu'un film plastique, quoi.
Ok, pouce. C'est ce qu'on appelle un effet comédogène ou alors un ingrédient comédogène. Ça désigne justement un produit ou un ingrédient qui favoriserait la formation de boutons, qu'on appelle dans le jargon des comédons. Si Laurent parle de film plastique, c'est non seulement parce qu'on parle d'un dérivé pétrochimique, mais aussi parce que, à trop forte dose, ça peut effectivement devenir trop occlusif. Attention, on ne dit pas que la seule présence d'un ingrédient suspecté d'être comédogène provoquera des boutons blancs et points noirs à tout le monde, mais plutôt qu'une grande quantité peut effectivement en favoriser le développement si votre peau y est particulièrement sujette. Si vous avez une peau jeune, à problème ou une peau grasse qui fait souvent des boutons, oui, il vaut mieux éviter les ingrédients suspectés d'être comédogènes, comme de l'huile minérale. Mais si vous avez une peau normale ou sèche ou mixte, l'huile minérale ne devrait pas vous poser de problème, comme nous l'explique maintenant Laurent.
En fait, si tu as une peau qui est hyper sèche, ça veut dire quoi une peau sèche? Ça veut dire qu'elle ne produit pas assez de sébum pour se défendre. Le sébum, c'est le gras qui est produit par notre peau naturellement pour la défendre de la déshydratation, pour la défendre des attaquants extérieurs, de la pollution, etc. Si la peau sèche, elle n'a pas ce sébum pour se défendre, qu'est-ce qui se passe? Elle va tirailler énormément parce qu'il va y avoir plein de trucs qui vont pénétrer dans sa peau et ça va créer des rougeurs, etc. Donc, quand on met une huile de pétrole sur une peau sèche, c'est le nirvana. Parce qu'elle a cette protection qui va rester là toute la journée et ça va la protéger des agresseurs extérieurs parce que là, c'est film plastique, quoi. Et de l'intérieur, l'hydratation, le peu d'hydratation qui lui restait, va rester. Donc, ça a une utilité, mais il faut vraiment bien comprendre et connaître son type de peau et ses besoins. Est-ce qu'on a une peau qui est déshydratée? Est-ce qu'on a une peau qui est sèche? Dans ces cas-là, c'est quelque chose qu'on peut recommander. Si on a une peau grasse, à fuir.
D'accord. Et tu parlais aussi de certains dermatologues qui recommandaient des produits à base de paraffine liquidum ou d'huile de pétrole. Mais c'est aussi ce qu'on applique sur des grands brûlés, par exemple, l'huile minérale. Justement parce que c'est extrêmement stable, que c'est inerte et que ça ne va pas interagir avec une peau lésée.
Et ça, c'est pas rien de ne pas interagir avec une peau lésée, en fait. Enfin, c'est vraiment inoffensif en tant que tel. Après, si la couche est trop épaisse et qu'elle ne permet pas aux peaux mortes de partir, au sébum de vraiment s'éjecter, on va dire, du pore, etc., ça peut devenir comédogène. Mais en soi, l'huile minérale, selon les études scientifiques qui sont faites, n'est pas comédogène.
D'accord. Alors, pourquoi les gens ont peur de l'huile minérale dans une liste Inky?
Après, huile minérale, c'est associé au mot pétrole. Donc, se mettre du pétrole, c'est un peu les pots d'échappement des voitures. On se met ça sur le visage, on se dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je me mets ?» etc. Il n'y a pas vraiment à avoir cette crainte en tant que telle. Pour la cosmétique, parce que c'est raffiné, et on a enlevé tous les trucs qui pouvaient être cancérigènes, qui pourraient provoquer des irritations, etc. Et aujourd'hui, on a des huiles minérales qui sont hyper épurées, quoi.
Et en fait, tu l'as dit un peu plus tôt, c'est un déchet de l'industrie pétrochimique. Donc, quand on achète un produit qui contient de l'huile minérale, on n'est pas en train d'encourager l'extraction de pétrole, puisque c'est déjà produit, par ailleurs.
Exactement.
Pour autre chose.
Quand tu vois la consommation mondiale de pétrole et ce qu'une voiture consomme versus ce que tu consommes dans un pot de crème, je pense que ça va en termes de ratio.
D'accord, donc on n'est pas en train de commettre un crime écologique quand on utilise un produit qui contient de l'huile minérale.
Non, et ça c'est justement un des débats aujourd'hui qu'il y a avec les gens qui sont très green, clean, etc. en disant « Oh mon Dieu, ça pollue la planète, etc. » et d'autres personnes qui disent « Ah mais c'est de l'upcycling, qu'on est en train de faire.
Ouais, là, c'est la version marketing qui parle. Mais ce que je veux dire, justement, c'est que c'est un déchet de l'industrie pétrochimique au niveau de la production, mais au niveau de la fin de vie de l'huile minérale. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais si l'huile minérale dans un produit qui est rincé, qui est nettoyé, est-ce que ça pollue la faune et la flore?
Bah, globalement, vu que c'est de l'huile minérale, on va quand même bien le filtrer en amont quand ça arrive, comment on appelle ça,
dans les eaux usées, la filtration,
les eaux usées, etc. C'est bien filtré. Après, au niveau du danger environnemental qu'il y a, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui montre qu'il y a un gros danger derrière, quoi.
D'accord. Donc, on n'est pas en train de tuer les petits poissons.
On n'est pas en train de tuer les petits poissons, etc. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses qui ont été faites à ce sujet. Donc, si tu as un peu d'huile minérale qui est en effet inerte et qui passe dans l'organisme d'un poisson, qu'est-ce qui se passe? Pas sûr qu'il y ait grand monde qui a envie d'investir de l'argent pour étudier ça.
D'accord. Mais en tout cas, on sait que c'est inerte, quoi.
On sait que c'est inerte, voilà. C'est pas cancérigène, etc., déjà.
Comment est-ce qu'on reconnaît de l'huile minérale dans une formule skincare, dans la liste Inky?
Alors, si on regarde la liste Inky, on peut les retrouver sous les noms suivants. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de noms différents, mais voilà, il faut les retenir. Donc, le plus simple, c'est Mineral Oil. On va avoir aussi Paraffine, Paraffinum Liquidum, du Synthetic Wax. Donc là, on est sur une cire, wax. On a de la cire microcristalline, Cera microcristallina aussi. On a du polyisobutène, du... Enfin bref, il y a plein de noms possibles et imaginables en fait pour les huiles minérales, mais celles que je viens de citer sont les plus courantes.
Ouais, est-ce qu'il y a, je sais pas, on va trouver de la paraffine liquidum dans les crèmes corps plutôt, j'ai l'impression, et l'huile minérale dans les produits visage peut-être ou...
Alors, on retrouve un peu de tout partout. Honnêtement, ça dépend plus de la marque, comment est-ce qu'elle va formuler, etc. Après, les huiles minérales, on les retrouve quand même beaucoup plus souvent dans les crèmes que dans les sérums. Tu vois, le sérum doit avoir une texture quand même assez légère, pénétrer rapidement dans la peau, etc. Parce que c'est l'objectif d'un sérum, d'amener plein d'actifs d'un coup. Là où la crème, l'objectif, c'est de créer une barrière occlusive à la surface. Donc, c'est quand même plutôt là que tu mets des huiles minérales.
Donc, de l'huile minérale, s'il y en a dans un masque de nuit ou une crème de nuit, c'est OK. Ça ne sert pas à grand-chose dans la formule, ça n'a pas de vertu pour la peau. Mais si on a dans un sérum, une lotion tonique, une essence, voire un nettoyant, ce qui serait absurde, là, ça ne sert à rien. C'est même contre-productif, quoi.
Ouais, moi, honnêtement, moi, je ne prendrais pas ce genre de produit-là, quoi.
OK, donc ça, c'est un peu un guide. Genre, dans les premières étapes de la routine, on évite. Et dans les dernières étapes de la routine, surtout du soir... Avoir de l'huile minérale dans un produit de nuit, c'est OK, quoi.
C'est OK en fonction de son type de peau.
Oui, comme, si on a la peau très sèche,
si on a la peau très sèche, etc., clairement,
ça peut être intéressant.
Intéressant, ouais.
Mais si on a la peau grasse, à tendance acnéique, peut-être qu'il vaut mieux éviter, quoi.
Exactement. Tu vois, genre, si t'as une peau atopique aussi, genre qui peut avoir plein de rougeurs, ça peut gratter, etc., etc.
Moi, j'aime bien, du coup.
C'est quoi ?
Moi, j'aime bien, du coup.
Bah, justement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que c'est inerte. Là où si tu mets quelque chose comme des huiles essentielles dessus, enfin une crème avec des huiles essentielles, là c'est brûlure quoi.
Oui, personnellement j'ai une peau hyper atopique, sujette à énormément d'eczéma et ma dermatologue depuis 3 ans elle me recommande quoi ? Du Dexeryl et c'est de l'huile minérale avec de la paraffine et encore de la glycérine d'origine minérale aussi, donc c'est vraiment 100% dérivé pétrochimique quoi.
C'est ça, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment important de savoir pourquoi est-ce que tu utilises de l'huile minérale. Et si au global, ton type de peau ne requiert pas vraiment d'huile minérale, t'as pas une grosse déshydratation, une grosse sécheresse, honnêtement, moi, je préfère éviter, quoi.
Et justement, quand tu préfères éviter, ça veut dire que tu choisis des produits qui ont utilisé d'autres ingrédients à la place de l'huile minérale. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en alternative ?
Bah, en fait, c'est très différent. C'est-à-dire que je vais pas utiliser d'alternative parce que l'huile minérale donne une texture qui est quand même assez lourde à la crème. Et moi, j'aime bien les textures un petit peu plus légères. Du coup, je passe sur des crèmes qui ont juste tout simplement pas d'huile minérale et qui vont avoir tout type d'ingrédients, des hydrolats de plantes, Alors, je le cite beaucoup, l'acide hyaluronique, parce que ça donne un effet texture. Ils vont avoir des copolymères, enfin des polymères de synthèse à l'intérieur pour donner un petit peu de texture. Tu vas avoir différentes cires aussi, des cires végétales, par exemple, qui vont donner une autre texture au produit. Mais c'est tout. C'est travaillé totalement différemment, en fait. Et pour moi, l'huile minérale a vraiment une utilité, mais dans des cadres précis, quoi.
D'accord. Petite parenthèse pour préciser ce que c'est que l'acide hyaluronique. Tu peux dire ce que c'est ?
Alors, l'acide hyaluronique, c'est une petite molécule qui va retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. C'est-à-dire qu'elle va vraiment empêcher la déshydratation. Imagine ta peau, c'est comme un vêtement que tu laisses sécher, bah, à l'air libre, elle se déshydrate naturellement. Si tu mets une molécule d'acide hyaluronique à la surface de ta peau, dans ton épiderme, eh bien toute cette déshydratation, elle va être captée par la molécule. Et du coup, ta peau sera plus repulpée parce que tu as des grosses molécules avec plein d'eau tout autour. Et en plus de ça, ça empêche la déshydratation cutanée.
D'accord, ça se gorge de l'eau.
Ça se gorge d'eau qui est censée partir dans l'air.
Et qu'est-ce qu'on fait si on ne connaît pas son type de peau ?
Eh ben justement, le plus important, c'est de connaître son type de peau. Si tu ne le connais pas, je t'invite à faire le diagnostic qui est dans mon lien en bio sur Instagram. C'est totalement gratuit, ça te permettra de bien mieux connaître ta peau et surtout de savoir si l'huile minérale est faite pour toi ou non.
Les dessous de l'index. Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les dessous de l'index. Une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce troisième épisode sera dédié aux impacts de la fabrication des cosmétiques, un élément important si vous êtes soucieux de votre empreinte sur l'environnement. Une fabrication éco-responsable, cela représente 2 points sur les 20 que compte le Green Impact Index. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. Pour évaluer l'impact de la fabrication, 3 critères sont mesurés. En premier lieu, Pierre Fabre vérifie que toutes les bonnes pratiques environnementales sont respectées sur le site de fabrication du produit. Ensuite, que l'actif végétal est obtenu à partir d'un procédé d'extraction de la plante réalisé sans solvant pétrochimique. Quant au 3e critère, il s'agit de la culture de la plante dont est extrait l'actif végétal. Pierre Fabre privilégie le bio pour toutes ses cultures ou s'assure à minima qu'elle n'utilise pas de traitement phytosanitaire. Pour s'en assurer, une grande partie de la culture des plantes utilisée par les marques de Pierre Fabre est encadrée par les agronomes du groupe. Sur 180 hectares de champs cultivés en agriculture biologique dans le sud-ouest de la France. J'espère vous en avoir appris davantage sur la fabrication des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Eau Thermale Avène, de Ducré, de Nature Active ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacune et chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions, et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt. Les dessous de l'index.
Il y a d'autres types de dérivés pétrochimiques qu'on retrouve dans les ingrédients skincare. C'est quoi ? Je pense par exemple au PEG.
Oui, les PEG ou PEG qu'on retrouve souvent dans les cosmétiques. On en retrouve beaucoup plus souvent que les huiles minérales dans les marques qui se claiment un petit peu clean, etc. Ce que je trouve bizarre, parce que les PEG, c'est du polyéthylène glycol, donc c'est un dérivé aussi de la pétrochimie.
Et ça sert à quoi dans une formule ?
Alors, les PEG vont être très différents parce que tu as souvent un PEG avec un chiffre derrière, PEG 7, PEG 20, PEG 60 et PEG 500 et quelques, etc. C'est possible aussi. En fonction du chiffre, tu vas avoir un niveau de, enfin, tu vas avoir une utilité sur la peau qui est différente. Au global, quand le PEG est plutôt bas, c'est-à-dire en dessous d'une centaine, etc., ça va être plutôt hydratant pour la peau. Et quand le PEG est très haut, c'est plutôt ce qu'on appelle un émulsifiant. C'est ce qui permet de faire tenir la formule, de stabiliser la formule.
L'eau et l'huile ensemble comme une mayonnaise.
Exactement. Très bien formulé.
Ok, donc si je résume, les PEG ça peut avoir un rôle humectant, un rôle émulsifiant ou alors un rôle épaississant d'ailleurs, non ?
Bah, ça peut être un petit peu épaississant si on prend des PEG qui sont ni trop hauts. Ouais, un PEG avec un chiffre élevé, bah, du coup, ça sera plutôt du côté émulsifiant. Et un émulsifiant, c'est très, très dur en général. Là où un PEG qui a un chiffre très, très bas, il va être très liquide. Et c'est ce qu'on utilise et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les eaux micellaires, par exemple. Donc, quand tu as des PEG genre 60, par exemple, notamment l'un des plus connus, le PEG 60 avec castor oil, etc., c'est de l'huile de ricin mélangée avec un PEG. Et du coup, ça donne une texture qui est en effet plutôt épaisse et qui peut donner une texture un peu plus épaisse à ton produit.
Oui, du coup, donc tu viens de parler de PEG mélangé avec de l'huile de ricin, de la castor oil. Ça veut dire qu'en fait, on peut aussi se retrouver dans une listing key avec un PEG, qui est un dérivé pétrochimique, mélangé moléculairement avec des ingrédients d'origine naturelle.
Exactement. Et ça, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce qu'au début, je me disais, ah, mais le PEG 60, en fait, c'est un truc naturel, donc les PEG sont naturels. Et en fait, non, c'est juste que ça vient de l'huile de ricin, mais il y a aussi la molécule dérivée de pétrochimie qui sont assemblées, en fait, quoi.
D'accord. L'huile de ricin avec le, on crée des hybrides synthético-naturels.
Exactement.
C'est la chimie, quoi.
Bah, c'est de la chimie. Après, c'est de la chimie partout hein, en cosmétique. Dès qu'on fait une formule, tu mélanges de l'eau et de l'huile avec un émulsifiant, c'est de la chimie déjà, quoi, donc en soi.
Bien sûr. Et même extraire des principes actifs d'une plante, c'est de la chimie également.
Exactement. Tout à fait.
Et donc, opposer un ingrédient chimique à un ingrédient d'origine naturelle, ça a ses limites, quoi.
Ah, totalement.
Comment est-ce qu'on reconnaît des PEG dans une listing key? Tu l'as dit, donc ça va être PEG avec un chiffre compris entre 0 et 500, voire 1000.
Plus.
Voire plus encore. Mais parfois, c'est aussi PEG castor oil, des trucs comme ça, quoi.
PEG 60, là, typiquement castor oil. Donc,
Ah, il n'y a pas écrit PEG.
C'est genre PEG 60 hydrogenated castor oil, je crois, ou un truc du genre. Donc, il y a quand même le PEG avec le chiffre en plus devant.
Ouais, ouais, ouais. D'accord.
Donc, c'est très facile à reconnaître, contrairement aux huiles minérales en tant que telles, quoi.
Ok. Concrètement, on ne sait pas faire des PEG 100% d'origine végétale, à l'heure actuelle.
Pour moi, non. Parce que rien que le nom PEG, c'est polyéthylène glycol qui induit en fait le fait qu'on utilise un dérivé de l'industrie pétrochimique. Quoi, donc,
Est-ce qu'il y a des alternatives 100% d'origine végétale au PEG?
Alors, je ne sais pas si les polymères de synthèse sont totalement végétaux, mais pour moi, oui. Normalement, par exemple, tout ce qui est cross-polymère, copolymère, etc., qu'on retrouve dans les formules, alors acrylates, copolymère, etc., t'en retrouves plein dans les formules naturelles. Donc pour moi, ça veut dire que ça vient de la nature. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont autant utilisés dans les formules naturelles aujourd'hui. Pour remplacer les huiles minérales et les PEG.
Au même titre que l'huile minérale, les PEG, est-ce que c'est aussi inerte et inoffensif?
Alors globalement non, pourquoi? Parce que les PEG, en fait, ils ont un rôle sur la peau. Ils vont aider les principes actifs à mieux pénétrer dans la peau. Donc, alors il y a certaines personnes qui disent que ça ouvre plus les pores et ça fait pénétrer. Alors, je ne sais pas exactement quel est le fonctionnement au niveau de la barrière cutanée, mais en tout cas, c'est un véhicule à, faut l'imaginer comme un camion qui va faire pénétrer les molécules à l'intérieur de la peau. Donc, contrairement à l'huile de pétrole qui reste vraiment en surface, là, les PEG, ils ont une utilité et c'est pour ça qu'ils sont autant utilisés en cosmétique. C'est parce qu'ils aident, en fait les molécules intéressantes, par exemple, à mieux pénétrer dans la peau, pénétrer plus profondément, pour délivrer leur efficacité.
Donc ça veut dire qu'au même titre qu'ils aident les principes actifs à pénétrer la peau, les PEG peuvent aussi entraîner des molécules qui ne seraient peut-être pas bénéfiques pour la peau à pénétrer?
Exactement. Si tu as des molécules irritantes, potentiellement, ça pourrait pénétrer davantage. Si tu as des conservateurs qui sont un peu décrits aujourd'hui, genre parabène, phénoxyéthanol, bon, ça c'est un autre sujet, mais ça peut aider à pénétrer aussi davantage. Donc oui, il y a tout un débat sur... La peau, du coup, paraît plus poreuse quand on utilise des PEG. Il y a du bien, il y a du mauvais, mais c'est pour ça que c'est important de bien sélectionner sa listing key et de bien choisir les ingrédients qu'on veut et essayer de sortir les ingrédients qu'on ne veut pas ou on se dit, voilà, je préfère éviter.
Est-ce qu'il y a des étapes dans la routine skincare où avoir des PEG, ce serait OK et d'autres où ce serait plutôt déconseillé?
Pas forcément. Honnêtement, tu peux en retrouver quasiment partout. Dans les nettoyants, peut-être un chouïa moins, mais encore, on en retrouve. Mais sur le reste, bah non, parce que si tu as envie de faire pénétrer tes actifs, etc., ça peut être intéressant quasiment à toutes les étapes, quoi.
Du coup, c'est pas tant les PEG qu'il faut fuir dans une formule, dans une listing key, mais ce qui pourrait l'accompagner, qui serait pas bénéfique pour la peau, comme par exemple des molécules irritantes, si vous êtes sensible aux huiles essentielles et leurs dérivés, comme linalol ou...
Linalol, coumarin, citronellol, etc.
Ok, donc c'est pas les PEG en tant que tels dans une listing key qu'il faut fuir, c'est plutôt les ingrédients potentiellement irritants pour votre peau à vous. Par exemple, peut-être que vous êtes sensible aux huiles essentielles, et dans ce cas-là, il vaut mieux choisir une formule qui aurait peut-être des PEG, mais surtout pas de dérivés d'huiles essentielles.
Exactement, il faut vraiment comprendre ce dont ta peau a besoin avant tout, plutôt que de se dire « Ah mon Dieu, ces trucs-là sont horribles », etc. Après, les PEG, c'est encore un choix. C'est de la dérivée de pétrochimie. Certaines personnes se disent « Je ne veux pas toucher à ça ». Mais ça, c'est un choix personnel après.
D'accord. Donc ouais, les PEG en tant que tels ne sont pas irritants. C'est juste, s'il y a d'autres ingrédients irritants dans la formule, bah là, ça va les véhiculer aussi dans la peau.
Exactement.
Du coup, PEG, au même titre que l'huile minérale, puisque c'est dérivé de l'industrie pétrochimique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en trouver en cosmétique bio?
Non. ils sont pas acceptés dans la cosmétique bio aujourd'hui.
Et comment est-ce qu'on produit des PEG ?
Aujourd'hui, ils sont produits par des industries qui sont vraiment spécialisées en la matière. Et c'est aussi là où ils sont décriés, c'est que pendant leur production, ils vont lâcher des molécules qui sont cancérigènes. Donc l'oxyde d'éthylène, par exemple, c'est produit lors de la production d'éthylène. Et même si les industries essayent de filtrer au maximum avant que les fumées, etc., soient dégagées dans l'atmosphère, il semblerait qu'il y ait quand même des infimes quantités qui partent dans l'air aujourd'hui. Et donc, ça peut être respiré par les travailleurs qui travaillent autour de l'usine, etc., mais qui partent aussi dans la nature en général. Donc, voilà, les quantités sont infimes. On n'arrive pas à savoir exactement combien, mais c'est pour ça que c'est décrit.
Ok, pouce. Si je récapitule ce détail important, le processus de fabrication du PEG peut produire une infime quantité d'oxyde d'éthylène et une forme de dioxane, qui sont dangereux pour l'humain et l'environnement. Aujourd'hui, en France, on n'en retrouve pas dans l'ingrédient fini, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le produit final. En revanche, on peut regretter que le processus de production de cet ingrédient soit relativement néfaste, et donc vouloir éviter ce composant, par exemple. Et comment est-ce que ça se dégrade, les PEG ?
Ça va être comme les huiles minérales. Hein. On va être sur le même fonctionnement. Ça part dans la nature, et petit à petit, ça va se dégrader avec la nature. Je ne sais pas exactement, parce qu'il y a tellement de PEG différents, avec des poids différents, etc. Il faudrait voir comment est-ce que ça se dégrade exactement, mais je ne saurais pas te dire exactement quel est le processus de dégradation de ces PEG-là en cosmétique. Quoi.
Mais comme l'huile minérale, du coup, ce n'est pas biodégradable, ça ne se dégrade pas avec les bactéries, ça met juste beaucoup plus de temps à se dégrader. Quoi. Mais c'est inerte.
D'où leur stabilité et le côté inerte.
D'accord. En fait, est-ce que tu crois que les gens font l'amalgame entre huile minérale, PEG et plastique, en fait, dans les cosmétiques ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ça arrive avec une bouteille d'eau en plastique qu'on consomme et qui finit par faire des microplastiques, etc., que du silicone qui est déjà, tu vois, genre hyper dilué dans l'eau, nettoyé, etc. À part si tu vas à la mer et que tu prends une crème solaire et que là, tu lâches des silicones, il y en a un petit peu plus. Mais tu vois, par rapport à une bouteille d'eau, qui a une quantité de plastique phénoménale en comparaison, c'est pas la même chose, quoi. Mais c'est vrai que quand tu dis silicone, par exemple, t'imagines le sein avec la grosse boule de silicone à l'intérieur. Et là, tu dis, oh mon Dieu, c'est du plastique. Mais non, c'est pas la même chose. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment comparable, du coup. Pour essayer d'éviter les huiles minérales, etc., on invente de nouvelles molécules. Et certaines personnes te disent, par exemple, que les polymères de synthèse, c'est une sorte de plastique plus ou moins, quoi.
Mais qu'est-ce que c'est, les polymères de synthèse ?
Alors, ça va énormément dépendre. Je t'avoue que je n'ai pas énormément de recul dessus. Mais en gros, c'est des nouvelles molécules qui sont créées et qui permettent de créer de la texture et de remplir un petit peu ta formule, quoi, finalement. Donc, ils n'ont pas forcément une utilité qui est beaucoup, beaucoup plus grosse. Mais ce n'est pas une huile minérale. Okay. Et malheureusement, vu que la Clean Beauty tape sur l'huile minérale, les gens essaient de trouver d'autres alternatives. Et il y a des marques, quelques rares marques, qui essayent de se libérer aussi des polymères de synthèse, etc. Et toutes les autres, elles se disent, moi je mets des polymères de synthèse parce que sur Yuka, c'est noté en vert.
Alors qu'on n'a aucun recul dessus.
Voilà, voilà.
Ok, on sait que la production de PEG est extrêmement polluante et qu'elle libère une infime quantité de particules cancérigènes. Et c'est pour ça que les marques de Clean Beauty tapent sur ce genre d'ingrédients. Mais il y a aussi un enjeu marketing derrière tout ça, non ?
Alors, elle tape pas uniquement sur le fait que ça en relâche dans l'environnement, etc. À un moment, il y a beaucoup de marques qui se sont saisies du sujet en se disant « certaines industries raffinent pas hyper bien. » Et du coup, carrément, dans le PEG, tu te retrouves avec certaines de ces molécules cancérigènes. La réalité, en tout cas, moi, de ce que j'en comprends, c'est que la plupart des industries avec qui on travaille aujourd'hui font bien leur travail. On est quand même en France, en Europe, avec des gens qui sont vraiment hyper capés sur la formulation cosmétique pour savoir que ces ingrédients-là sont plus ou moins inoffensifs. Donc, c'est ce que tu disais, il y a un vrai champ de bataille aussi marketing. La marque Clean, Green, qui va dire « regardez les méchants loups, etc. Il y a des risques, faites attention. » C'est ce qu'on appelle le marketing de la peur. Et je t'avoue que moi, j'aime pas trop ça parce que tu fais peur aux gens, mais tu dis pas ce qu'il y a dans tes produits derrière. Tu dis juste que moi, mes produits sont sans ça. Ouais, mais ça serait bien de savoir si le produit pénètre bien, s'il y a des molécules actives, etc. etc. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai champ de bataille marketing. Et la clean beauty, à la fois, ça a beaucoup de bien, parce que ça fait bouger les lignes de l'industrie, ça fait beaucoup innover, mais à la fois, on joue beaucoup, beaucoup aujourd'hui sur le marketing de la peur. Et ça, franchement, c'est ça, faut vraiment se le garder en tête et se dire, la prochaine fois que je vois une pub, est-ce que c'est du marketing de la peur? Est-ce qu'on essaie de me faire peur ou est-ce qu'on essaie vraiment de me vendre un truc qui est efficace, quoi?
Ouais. Et donc, il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires autour des PEG, mais c'est, en tout cas, à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, pour la peau humaine, ça pose pas de problème tant que la peau est intacte et qu'il n'y a pas d'autres ingrédients irritants dans la formule, quoi.
Exactement. Exactement. Par contre, si tu as une peau lésée, c'est ce qu'on te conseille souvent, les PEG, il faut éviter de les utiliser parce que ils ont quand même un effet sur la peau. C'est pas totalement inerte comme une huile minérale.
D'accord. Donc, quand on dit peau lésée, c'est une peau qui serait brûlée, qui aurait des irritations, de l'urticaire, de l'eczéma, voire une poussée d'acné, par exemple.
Poussée d'acné où on vient de se percer 3 boutons et la peau est lésée.
Là, on évite les PEG.
On évite un petit peu.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Laurent.
Avec plaisir.
Si je récapitule, on peut retrouver différents dérivés pétrochimiques dans le skincare. Les plus facilement reconnaissables comme tels dans la liste Inki sont la paraffine, le pétrolatum, le paraffinum liquidum, le mineral oil ou encore la synthetic wax. Et ce sont des coproduits de l'industrie pétrolière, pour ne pas dire un déchet, donc on ne produit pas exprès davantage de pétrole pour fabriquer du skincare, rassurez-vous. Pour les peaux grasses et sujettes aux imperfections, c'est un ingrédient dont on peut largement se passer. En revanche, pour les peaux sèches, sensibles et réactives ou atopiques, la paraffine et compagnie peuvent être des ingrédients super intéressants qui vont bien protéger la peau, avec un effet barrière presque réconfortant. Les PEG sont aussi un dérivé pétrochimique, et leur production a fait polémique il y a quelques années parce que certains fabricants les purifiaient mal, si bien qu'on pouvait se retrouver avec un ingrédient final contenant des traces de molécules cancérigènes, que sont l'oxyde d'éthylène et une forme de dioxane. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, il n'y a plus ce genre de risque aujourd'hui en France. Toujours est-il que la fabrication de PEG dans l'usine dégage une infime quantité de ces molécules problématiques dans la nature, ce qui est à prendre en considération. Merci beaucoup à Laurent Pan, alias Secret de Peau sur TikTok et Instagram, pour son éclairage sur les silicones en produits de sang de la peau. Dans le prochain épisode de Matière Première, on abordera la fâcheuse question des sels d'aluminium en matière de déodorants et d'antitranspirants. Et spoiler alert, si vous pensez que la pierre d'Alain était une super alternative aux méchants sels d'aluminium, vous faites sûrement une petite erreur.